Les actualités via 95FM.
Bon week-end tout le monde, ici Mark Bryson. Voici le résumé de l'actualité de la dernière semaine. En raison du faible niveau d'inscription, la première cohorte du DEP en charpenterie-menuiserie au Centre de service scolaire de la Riveraine devrait commencer en août plutôt qu'en mars. En décembre, Via 95 avait annoncé la création de cette nouvelle formation au CSS de la Riveraine. À ce jour, 5 demandes d'admission sur une possibilité de 22 ont été reçues pour ce programme. C'est ce qu'a fait savoir par courriel la direction. Le Centre de formation professionnelle de la Riveraine, en collaboration avec le CSS et ses partenaires, poursuit activement ses efforts pour faire connaître cette nouvelle formation auprès de la population. Aussi, afin de promouvoir l'arrivée du DEP en charpenterie-menuiserie sur le territoire, des campagnes numériques, des visites dans les écoles secondaires, ainsi que diverses actions de visibilité sont prévues au cours des prochains mois. On rappelle que c'est le ministère de l'Éducation qui donne les accréditations aux différents centres de services scolaires pour offrir cette formation. Comme plusieurs autres élus à travers la province, Geneviève Dubois a dénoncé les lacunes du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Dans une publication sur les réseaux sociaux et sur le site de la ville de Nicolet, la mairesse, qui est aussi première vice-présidente de l'Union des municipalités du Québec, a appelé à la solidarité de ces travailleurs étrangers.
Ces travailleurs immigrants-là sont intégrés, parlent français, ils sont dans nos communautés, ils sont dans nos entreprises, ils sont même dans nos familles. Alors, ce qu'on souhaite à l'UMQ, c'est que le gouvernement permette à ces gens-là d'y rester, donc d'avoir une espèce de clause grand-père, des gens qui sont déjà ici et qui vivent actuellement des drames humains. Même chose aussi pour nos entreprises qui sont très touchées par ces changements de règles-là.
En début de semaine, le préfet de la MRC de Bécancour, Mario Lyonnais, a lui aussi pointé du doigt le PEC. Par ailleurs, l'UMQ a invité la population à porter un cœur bleu sur la poitrine en guise de solidarité. Des citoyens de Saint-Grégoire ont récemment été la cible de malfaiteurs qui ont tenté de les prendre en défaut avec une tentative de fraude au paiement de loyer. Les fraudeurs se sont fait passer pour les propriétaires de leur loyer et par courriel ont exigé un virement urgent vers une nouvelle adresse courriel. L'agent d'information de la Sûreté du Québec, le sergent Marc Tessier, a rappelé les précautions à prendre si on reçoit ce genre de demande.
Poser la question, est-ce que la compagnie, en temps normal, fait ce genre de communication-là pour être certain de ne pas se faire avoir, c'est de communiquer directement avec ces gens-là. On a quand même des anciennes correspondances avec la compagnie, par exemple. Donc, on va faire une vérification pour on s'assure de voir est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est eux qui ont envoyé ça. Donc, peu importe le type de sollicitation qu'on a, toujours faire une contre-vérification, prendre quelques minutes, il n'y a rien qui presse de toute façon, c'est prendre quelques minutes pour s'assurer que c'est légitime.
La SQ a aussi rappelé d'être vigilant, puisque si le virement d'une somme est accepté par le fraudeur, l'argent est très difficile à récupérer. Louis Plamondon a déposé à la Chambre des communes à Ottawa une pétition pour plus de reconnaissance des proches aidants. Celle-ci demande, entre autres, au gouvernement fédéral de reconnaître officiellement les proches aidants comme une composante essentielle du système de santé et de mettre en place une allocation fédérale mensuelle ou un programme de compensation. Le député de Bécancour, Nicolas Sorel-Alnobac, est catégorique. Soutenir les proches aidants, c'est une question de justice, de dignité et de responsabilité collective. Il a ajouté que leur contribution est inestimable et qu'elle mérite d'être reconnue de façon concrète. Au cours de la prochaine année, la municipalité de Saint-Célestin, qui compte environ 900 citoyens, devrait voir un accroissement important de sa population. Maintenant que la mise à niveau de ses eaux usées est terminée, les promoteurs pourront débuter leur projet qui était sur la glace depuis un moment. Il était impossible pour ces derniers d'aller de l'avant avec leur projet, étant donné que la municipalité ne pouvait fournir l'eau nécessaire. Le maire Raymond Noël a mentionné que ça pourrait se faire rapidement.
Maintenant que nos travaux sont faits, on est aux normes pour l'eau potable. Nous sommes aux normes aussi pour les eaux usées. Donc, le ministère de l'Environnement va nous débloquer pour qu'on puisse continuer la prolongation des rues, l'ajout de nouvelles rues. Puis on a des promoteurs qui sont en attente avec nous depuis quelques années. Les plans sont prêts. Les promoteurs vont, dès cette année, déployer une nouvelle rue avec 33 nouveaux terrains.
M. Noël a ajouté que d'autres projets pourraient aussi voir le jour bientôt.
Puis la municipalité, elle possède 6 terrains pour le multifamilial. Puis on a aussi des promoteurs qui sont intéressés à se procurer nos 6 terrains pour le multifamilial. Puis nous devrons aussi prolonger une rue d'environ 100 mètres.
La rue dont le maire fait mention est la rue Ellison. On rappelle que Québec devrait rembourser cette année la mise à niveau des eaux usées, dont la facture a coûté 3,3 millions de dollars. La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, était présente à Saint-Célestin en novembre pour en faire l'annonce. Le projet tant attendu du commerce La Station à Grand-Saint-Esprit est retardé de quelques mois. Le maire Sylvain Laroche a expliqué que c'est en raison notamment du travail de l'administration gouvernementale que le projet s'étire.
Actuellement, on est dans les plans d'architectes. Donc, ça va peut-être tarder un petit peu plus que cet été. On va peut-être voir ça plus début d'automne. Il y a des plans d'architectes, il y a des plans qu'il faut faire approuver par la MAPAC. On sait que c'est pas toujours rapide.
Le commerce offrira entre autres des produits alimentaires de base ainsi que des mets cuisinés. On rappelle qu'un investissement de 240 000 $ a récemment été annoncé. Le projet va notamment bénéficier d'une somme de 150 000 $ provenant du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La MRC de Nicolas Yamaska a ajouté pour sa part une enveloppe de 40 000 $ du Fonds local de solidarité, tandis que la municipalité a investi 50 000 $ à même son budget. Le maire a souligné que même si l'arrivée du commerce est un projet d'envergure pour la municipalité, il a prévenu que la gestion en 2026 se fera sous le signe de la prudence.
On veut garder notre belle croissance. On veut garder l'argent des poches de nos citoyens. On ne fera jamais de folie. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien des citoyens, bien de la communauté. On essaie de garder un budget très, très serré pour la prochaine année.
Le Conseil des Abénakis d'Odanak a conclu un contrat de 249 000 $ avec une firme d'architectes de Québec pour le projet du nouveau bâtiment du Bureau environnement et terre d'Odanak. Le contrat a été conclu à la mi-décembre avec Cargo Architecture. Selon le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, c'est pour la mise à jour de l'étude conceptuelle existante, la préparation des plans et devis pour appel d'offres, ainsi que la surveillance périodique durant la construction du nouveau bâtiment. Il n'est pas indiqué toutefois quand se feront le début des travaux de cette nouvelle bâtisse, ni la fin de ceux-ci. Et en terminant, le directeur général du Moulin Michel à Bécancour, Philippe Dumas, a écarté la possibilité de fermer son établissement au public dans les prochains mois. Comme annoncé dans les derniers jours, l'horaire est réduit à 3 jours par semaine, du jeudi au samedi. C'est en raison du départ de 2 employés reliés à la fin d'un programme gouvernemental destiné aux travailleurs étrangers. M. Dumas s'est dit confiant de trouver dans les prochains mois des solutions qui permettraient un horaire plus flexible lors de la période estivale.
Ça a été communiqué comme étant une fermeture partielle. Dans notre cas, on parle vraiment d'une réduction d'heures d'ouverture au public. Puis c'est ce qui est prévu pour les 3-6 prochains mois. Nous, on est très confiants, en fait, de réouvrir pour la saison estivale. Ça, c'est certain. Mais sous quelle formule? C'est là où ça va nous servir les 3-6 prochains mois de voir quel partenariat alimentaire, par exemple, pourrait être développé.
Monsieur Dumas a réitéré l'importance de pouvoir compter sur des travailleurs étrangers pour combler les besoins des entreprises de la région en matière de main-d'œuvre.
Autant au Moulin, on a voulu souligner et de prendre le temps, en fait, d'expliquer la répercussion chez nous. C'était pour faire porter ce message-là également, l'importance de ces résidents étrangers ou ces résidents temporaires-là chez nous en région. Je salue vraiment les gestes de la MRC, puis je suis convaincu que ça se fait entendre, assurément.
Alors voilà ce qui complète le résumé de l'actualité. Passez un excellent week-end en tout temps pour en savoir plus sur ce qui se passe chez vous. Allez directement sur notre site web, levia.fr.